Ce qu'on appelle, c'est la vieille expression, l'aide de dernier recours. Qu'est-ce que ça veut dire en 2021? Les cas sont assez nombreux. Moi, j'en vois souvent là, de gens qui, par exemple, ont des faibles revenus, pas d'assurance, et qui ont un diagnostic de cancer qui implique des traitements. Et une fois le chômage terminé, ils font des demandes à l'aide sociale. Puis j'ai un cas en tête où la personne s'est fait dire, vous avez une auto d'une valeur de 10 000 $ veuillez la vendre, puis après ça, vous viendrez nous voir. Alors, comment on fait pour aider vraiment des gens qui sont dans le besoin, qui sont frappés comme ça par exemple, des diagnostics de cancer? Luc?
Ben oui, la question est bonne, Paul, Nathalie, parce que ça fait 100 ans que l'aide sociale existe cette semaine, et puis on peut se poser la question, est-ce que ça fait vraiment le travail qu'on veut que ça fasse? Donc, aider les gens en leur fournissant une aide à leurs besoins essentiels en dernier recours. Toi, Paul, quand tu disais, tu as nommé quelques exemples, mais tu es là depuis combien de temps à la radio? Une trentaine d'années.
Oui.
Dans les années 90, tu as vécu toute l'époque où il y avait une critique de la société qui était intense contre l'aide sociale. En 1996, il y avait 10% de la population du Québec qui était sur l'aide sociale.
Ben, je me souviens de ce qu'on appelait les boubous macoutes, là.
C'est ça. Il y a eu un travail énorme qui a été fait pour réduire ce chiffre-là. Et maintenant, on est à moins de 4% de personnes sur l'aide sociale. Mais pour y arriver, on a serré la vis à mort sur, comme tu dis, des conditions de distribution de l'aide sociale, mais aussi sur le montant de l'aide sociale. Écoute, le montant de l'aide sociale, là, les prestations, là, c'est 708 $ cette année, 708 $ ça a été augmenté de 10 $ pendant la pandémie. On ne peut pas dire que c'est des gens qui ont beaucoup profité de la pandémie, là, puis tu compares ça à la PCU, etc. Là. 708 $ C'est 848 si la personne est en couple. Et on parle de seulement 1314 $ pour un couple qui aurait des graves contraintes à l'emploi. Donc, des gens qui ne peuvent pas travailler. On peut s'entendre qu'avec ce montant-là, là, 700, je prends moi, par exemple un des montants, le 708 $ tu peux à peine te payer un loyer à Montréal. En fait, il y a la plupart des loyers disponibles, du moins, là ils sont tous en haut de 708 $ et de loin. D'ailleurs, c'est ce qui fait que 50% des gens sur l'aide sociale sont des chambreurs. Donc, on a baissé les tarifs, on les a contraints et on a mis des conditions très dures pour empêcher que ça soit attractif. Et avant une certaine époque, on disait « Ah ouais, mais c'est peut-être plus payant d'être sur l'aide sociale que de travailler. » Bien, cette époque-là est bien révolue. Maintenant, c'est 3 fois plus payant d'être au salaire minimum que d'être sur l'aide sociale. Alors, c'est le résultat de ça, c'est que est au plus bas, l'aide sociale est au plus bas du plus bas du plus bas qu'elle a été dans l'histoire du Québec, mais aussi fonctionnellement, elle est au plus bas parce que les 2/3 des personnes qui sont sur l'aide sociale, ce sont des personnes qui ne peuvent pas travailler. Il reste juste du 300 000 là, personnes, il reste juste 1/3 de personnes qui peuvent travailler et qui ne le font pas pour toutes sortes de raisons. Mais je pense pas qu'on peut descendre plus bas que ça. Mais en contrepartie, est-ce qu'on continue de générer trop de pauvreté?
Oui, mais on va pas s'obstiner ce matin, Luc, sur la nécessité d'améliorer l'assurance-emploi. En 100 ans d'histoire, il y a eu des réformes. Je vous l'avais dit, certaines ont marqué l'imaginaire, là, comme la réforme des boubous macoutes. Paul, le cas auquel tu réfères, c'est le cas auquel j'ai pensé. Tu lui as parlé il y a quoi, 2-3 semaines, José ouais. Bourdon. Tu sais, c'est assez incroyable, là, cette femme qui se bat contre un cancer, préposée aux bénéficiaires, 2 enfants, début de la cinquantaine, doit vendre son Elantra qui vaut 10 000 $ pour avoir accès à l'aide sociale. Cette espèce de dynamique où on doit s'appauvrir pour bénéficier d'une aide de dernier recours, selon moi, elle doit être révisée.
Mais ce qui est, je me permets une parenthèse rapide. Oui. Ce qui est tordu, là, c'est que quand on a fait l'entrevue avec elle, les gens ont été touchés. Puis il y en a qui ont offert de partir un mouvement de GoFundMe.
Oui.
Puis bon. Sauf que si elle prend l'argent, là, elle se prive des revenus de l'État. Fait que t'es comme coincé en disant, est-ce qu'on l'aide, tu comprends, ça devient complètement fou parce que ce qu'on lui offre, en bout de ligne, ce sont des peanuts, là.
Oui, effectivement, ça, on ne peut pas vivre clairement avec
non.
ça. Puis imagine, tu es dans une situation précaire parce que tu combats la maladie. Ça crée toutes sortes de situations stressantes. Tu sais, c'est pas évident, là, combattre un cancer. Je vais-tu m'en sortir ou pas? Puis là, l'État en ajoute une couche en disant, désolé, mais écoute, là, tu vas devoir vendre ta voiture qui te permet d'aller à tes traitements. Fait que ça crée une situation, complètement, tordue, effectivement. et qui à laquelle il faut s'attarder. L'aide sociale au Québec, c'est quoi? C'est presque 3 milliards de dollars par année. Tu le disais, Luc, là, on est rendu à un peu plus de 318 000 prestataires au Québec. Puis j'entendais justement, je lisais, c'est-à-dire les propos du ministre Jean Boulay samedi dans la presse, suite à l'article de Denis Lessard, qui disait il n'y a pas eu d'augmentation de cas de demande d'aide sociale durant la pandémie. Bien, je comprends. Savez-vous combien le gouvernement fédéral a versé au Québec durant la pandémie pour la PCU? C'est pas moi qui le dis, Michel Girard dans le Journal de Montréal. 18,5 milliards de dollars. Il y a 2 millions de Québécois qui ont bénéficié de la PCU. Écoute, je comprends qu'ils ne sont pas allés sur l'aide sociale. 18,5 milliards de dollars. C'est de l'argent net versé dans l'économie du Québec. Alors oui, il faut réformer. En fait, je devrais dire plus améliorer l'aide sociale. Oui, pour répondre aux besoins d'une Josée Bourdon. Mais par exemple, les pensions alimentaires sont calculées. Un ex-conjoint qui verse une pension alimentaire, une maman qui a des enfants, ça, c'est calculé par l'aide sociale. Alors que c'est de l'argent qui est consacré, qui est censé aller aux enfants. Alors ça crée un préjudice pour les femmes monoparentales, entre autres. Il y a plein de cas comme ceux-là. Par exemple, tu peux avoir droit à 200 $ par mois si tu fais quelques heures de travail par semaine ou par mois, même si tu bénéficies d'un chèque d'aide sociale. Mais ce montant-là n'a pas été bonifié ou ajusté depuis des années. Alors, tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis, OK, oui, 60 % des gens qui sont sur l'aide sociale vivent des contraintes sévères ou temporaires à l'emploi. 45 % des gens qui vivent sur l'aide sociale ont 50 ans et plus. 45 % des immigrants à Montréal sont sur l'aide sociale. Alors, le peu qui reste qui peut aller sur le marché de l'emploi.
Non, Nathalie, excuse-moi, je vais faire une petite correction. Là, c'est 45 % des personnes qui sont sur l'aide sociale sont des migrants.
Ah oui, OK, parfait. Merci de corriger, effectivement, tout à fait. C'est important. Mais tout ça pour dire qu'il y a effectivement peut-être là des personnes qui veulent aller sur le marché du travail. Mais les règles de l'aide sociale sont tellement vicieuse, ça fait en sorte que, oublie ça, là.
Mais ça ramène pas le débat sur le fameux revenu garanti, là, qui est un débat qui réapparaît de temps en temps en disant, faut établir, là, l'ensemble des prestations puis des crédits puis de tout ce qui existe puis dire, voici, on garantit un revenu minimal à une personne.
Oui, effectivement. Les promoteurs du revenu garanti disent dans la vie d'une personne, il y a tout le temps des choses qui vont se passer, mettons de plus en plus d'ailleurs, un burn-out, une maternité, un temps partiel, la personne devient aidant naturel, une réorientation de carrière, un chômage saisonnier. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui font qu'à un moment donné, tu n'auras pas de revenus. Et là, ils proposent d'avoir le minimum garanti, le revenu minimum garanti qui devient automatique à ce moment-là, ce qui permettrait de sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de frais de gestion et aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inspections parce que l'État en fait énormément pour faire respecter les conditions de l'aide sociale. Tu sais que tu n'as pas le droit de faire plus que 200 $ par mois avant que ton aide sociale soit affectée, ou il y a les étudiants aussi, est-ce que tu étudies ou pas. Il y a toutes sortes de conditions que l'État doit constamment surveiller, vérifier. Alors, on couperait tout ça. Il reste que le débat sur est-ce que ça va devenir suffisamment tellement attractif que des gens vont quitter leur emploi, vont choisir de ne pas travailler pour être plutôt sur le revenu minimum garanti. La question se pose. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que 2/3 des personnes sur l'aide sociale ne peuvent pas travailler pour des raisons temporaires, par exemple un accident de travail, une grossesse, etc., ou pour des raisons permanentes comme santé mentale ou accident de travail permanent, etc., ou handicap permanent. Et pour ces gens-là, ils retourneront pas au travail. Alors, pourquoi les maintenir dans la misère? Ça, c'est la question qu'on peut se poser.
Ouais.
Puis, il faut comprendre qu'on a l'argent pour faire mieux. T'sais, l'aide sociale nous coûte moins que la moitié de ce qu'elle nous coûtait en 1996. Le chômage nous coûte moins du tiers de ce qu'il nous coûtait en 1990. Donc, on a l'argent pour faire des réformes.
On va s'arrêter là-dessus. On vous retrouve demain déjà. Il est 9h01 et on va aller faire un petit survol de la 640, monsieur.